BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Cyril Linette, bonjour, merci d'être avec nous, directeur général du PMU. Le PMU qui est un peu soulagé, puisque vous avez vu, je crois, 90% de votre chiffre d'affaires s'effondrer. Puis les courses, elles vont se déconfiner, les courses hippiques vont se déconfiner à partir du 11 mai prochain. C'est une bonne nouvelle. Mais Cyril Linette, vous êtes un des meilleurs spécialistes du sport. Vous avez été patron de l'équipe, vous avez été patron du sport à Canal. Juste quand même une question. Est-ce qu'il y aura vraiment un monde d'après et un monde d'avant, notamment dans le foot? Est-ce que vous pensez vraiment on change d'air lorsque vous voyez tout ce qui s'est passé depuis quelques jours?
Franchement, j'en sais rien. Je pense qu'il faut se garder de conclusions définitives. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le monde d'après des courses hippiques. On était dans une phase
oui,
de relance.
Oui, on y vient. Mais sur le monde d'après dans le sport.
On va y venir. Sur le foot, je ne sais pas. On verra. C'est un petit peu tôt pour le dire. Je sais pas. Je peux vraiment pas vous dire. Il faut souhaiter que la Ligue 1 se sorte indemne de cette situation. Ce ne sera pas simple, surtout si effectivement les autres championnats étrangers, je parle du foot évidemment, parviennent à reprendre avant la fin de l'été. Bon, ce qui n'est pas certain, mais ce qui semble être leur intention, si la Ligue 1, qui elle a décidé sur décision du président de la République et du Premier ministre de ne pas reprendre, eh bien, se retrouve un peu plus décrochée, là ce sera problématique. Il faut souhaiter effectivement que l'ensemble des championnats convergent vers la même décision et que la décision de non-reprise de la Ligue 1 soit suivie par tous les autres. Sinon, ce sera difficile.
Ouais, merci. Alors, sur le sport hippique, les courses hippiques, et puis aussi les paris en ligne, hein, notamment le poker, très important hein, à suivre. Mais d'abord, les courses hippiques. Est-ce que vous dites, ouf, est-ce que ça... Parce que ça peut être paradoxal d'arrêter la Ligue 1 et puis d'avoir les courses hippiques qui repartent, vous voyez, je veux dire, c'est... Est-ce que c'est... Parce qu'il y a toute une filière hippique qui est en danger derrière vous, derrière le PMU?
Alors, je ne dis pas complètement ouf, parce qu'il faut être très prudent, hein, bien sûr, on n'est pas encore le 11 mai, mais théoriquement, effectivement, les courses vont reprendre le 11 mai. Pourquoi? Parce que les sociétés de courses avec le PMU n'organisent pas les courses. Le PMU, c'est l'opérateur de Paris. Les sociétés de courses sont des sociétés très professionnelles qui organisent 15 à 20 000 courses par an dans des lieux qui sont assez bien sécurisés. Les hippodromes, c'est très vaste, les gens ne se croisent pas beaucoup. Il est possible techniquement, effectivement, d'organiser, même dans une période post-confinement avec des règles de circulation et de stationnement très strictes, il est possible d'organiser des courses de manière sécurisée en termes sanitaires. Donc c'est ce que les sociétés de courses s'évertuent à faire, c'est ce qu'elles vont faire à partir de la semaine prochaine. Et évidemment, le PMU ne peut que soutenir cette initiative très professionnelle parce qu'on a envie de reprendre l'activité. Aujourd'hui, on a une activité de paris sur les courses à l'étranger, dans les quelques pays qui n'ont pas interrompu l'organisation de courses, mais ça représente, vous l'avez dit je crois tout à l'heure, à peine 10% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Donc oui, le PMU souhaite évidemment reprendre le plus vite possible.
Mais il y aura du public dans les hippodromes ou surtout pas?
Non, il n'y aura pas de public.
Oui, c'est ça, pardon. Oui,
bien sûr, il faut rester extrêmement raisonnable. Oui. Mais il faut savoir que les enjeux... La filière hippique, elle fonctionne comment? Elle organise des courses, ces courses génèrent des paris, et ce sont ces paris qui la financent. Donc c'est une filière qui, depuis des dizaines d'années, est très responsable, très autonome, qui a trouvé son modèle économique, organisation de courses, paris sur les courses et financement, redistribution à la filière. Or, les paris sur les courses ne s'effectuent qu'à 4% dans les hippodromes. Donc en fait, l'essentiel de l'activité, d'accord, c'est sur Internet et dans les points de vente. Donc la double problématique pour le PMU, c'est bien sûr que les produits redémarrent, donc les courses françaises, mais aussi que nos magasins réouvrent, c'est-à-dire l'ensemble des points de vente. Oui. Alors sur le réseau tabac et presse, aujourd'hui il est ouvert, on va négocier pour progressivement faire revenir notre clientèle, toujours bien sûr dans des conditions sécurisées d'un point de vue sanitaire, et puis on va attendre les décisions des pouvoirs publics sur la réouverture des bars. Donc petit à petit, on va reprendre à la fois notre produit phare, les courses françaises, et puis notre réseau de distribution. Et c'est là que se fait le chiffre d'affaires du PMU.
C'est là où se fait le réseau de distribution, c'est le chiffre d'affaires du PMU, mais en même temps, il y a le PMU.fr. Donc est-ce que vous avez vu un basculement ou pas?
Oui, alors on a des chiffres qui sont plutôt en hausse sur PMU.fr depuis quelques semaines, mais encore une fois, 93% du revenu du PMU, ce sont les courses françaises. Donc quand vous êtes privé de votre produit, même si vous avez une distribution sur Internet qui est maintenue, globalement le produit n'y est pas. Donc on a amélioré nos résultats à l'aide des courses étrangères, mais globalement, on a une situation où effectivement il nous manquait le produit principal. On va voir effectivement à l'occasion de cette reprise si on est capable d'être plus performant, parce que 10% sur Internet, c'est pas énorme. Hein. Historiquement, le PMU, c'est vraiment un produit.
Oui, c'est pour ça. Est-ce que vous attendez à une montée en puissance?
Oui, on s'attend à une montée en puissance.
Parce qu'on voit bien dans toute l'économie, c'est le cas.
Oui, parce qu'on a une clientèle qui trépigne, qui a envie de jouer. Hein. On a des passionnés, c'est un jeu de passionnés. Cette clientèle trépigne. On peut penser qu'effectivement, à la réouverture des courses, même si c'est sur Internet, elle va se mettre à jouer. Alors, est-ce qu'on va compenser rapidement ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui en point de vente? Évidemment que non. C'est pour ça qu'on a besoin aussi que notre réseau de distribution se remette en route rapidement, toujours dans des conditions de sécurité, bien sûr, pour les clients, pour nos partenaires de vente, mais on a besoin de pouvoir refaire rapidement du commerce dans les points de vente. Il faut qu'on se prenne en main.
Ça, le
Il faut
commerce dans
qu'on
les points
puisse
de vente,
faire.
pardon, peut-être vous l'avez dit, mais j'ai peut-être pas. Il dépend un peu des bars-restaurants, c'est-à-dire que ça sera après le 2 juin?
On a 13 000 points de vente, dont 9 000 ne sont pas simplement des bars.
Oui,
On
je
a
sais, oui.
9 000 points de vente qui théoriquement pourraient être réouverts. Parmi
Mais
ceux-ci,
vous ne le
on en
savez
a
pas.
5 000 qui sont actuellement. Non, on en a 5 000 qui sont actuellement ouverts. On a 5 000 bars tabac qui n'ont pas d'activité bar, aucune activité bar très séparée dans leur point de vente, et donc aujourd'hui fermés. Il y a 5 000 points de vente qui pourraient aujourd'hui nous accueillir. On a choisi en mars de ne pas les ennuyer avec le produit et la clientèle PMU parce qu'on n'avait plus de courses françaises et parce que d'un point de vue civique,
Ah ouais,
c'était
bien
pas
sûr, et
très
puis
raisonnable.
on le voit bien,
Un
c'est
mois et demi
fermé.
plus tard, voilà, un mois et demi plus tard, c'est différent. Les courses vont revenir. Notre clientèle, bah, comme toute la clientèle française, s'est habituée à des comportements dans les magasins différents d'il y a un mois et demi. Je veux dire, on s'est tous formés dans une boulangerie ou n'importe où à la manière de fonctionner. Donc, on pense que notre réseau, les 5 000 points de vente tabac presse, vont pouvoir petit à petit reproposer pour le produit PMU. Alors, vous savez pas les écrans avec Equidia et cette population qui s'agglutine et qui joue en dernière minute sur l'ensemble des courses. Ce sera pas possible, mais au moins le quintet du matin, que tranquillement dans votre point de vente, vous pourrez, nous l'espérons, le faire rapidement sur les tabacs et sur le réseau de presse.
D'accord. Vous n'avez pas de certitude par rapport au 11 mai. Vous n'avez pas encore de certitude.
Ça va se faire progressivement. Les courses,
D'accord.
ça va
OK, on a
marcher parce
compris.
que les sociétés
Le
minières ont bien
poker.
travaillé.
Cyril
Et
Linette, le
le
poker.
poker,
Le poker. Alors, est-ce que tout le monde s'est mis à jouer au poker comme tout le monde s'est mis à regarder des vieilles séries comme Hercule Poirot?
Oui, le poker est en hausse de 120% au PMU,
Ouais.
mais le poker, Edwige, c'est à peine 1% de la marge du
Ouais,
PMU.
je
Le
sais.
PMU, en dépit de sa diversification, c'est une marque, et d'ailleurs c'est tout le sens de la stratégie qu'on a remis en place depuis 2 ans et qu'on ne regrette absolument pas. Le PMU, c'est le pari hippique. C'est son métier, même si on fait du pari sportif et même si on fait du poker. Donc effectivement, le poker a mieux fonctionné pendant un mois et demi, mais avec un produit qui représente moins d'1% de votre marge. Vous imaginez bien que ça n'a pas de répercussions,
Mais est-ce que vous
d'incidences
n'allez
réelles.
pas revenir justement à la stratégie précédente? Parce que là,
Non,
vous allez
certainement
poser
pas.
des
Alors, vous
questions, non?
parlez tout à l'heure. Non, certainement pas. Vous parlez tout à l'heure de monde d'avant, monde d'après. Le monde d'après du PMU, il faudra voir effectivement comment on peut stationner, circuler dans les points de vente. Il faudra être responsable et raisonnable. Mais le monde d'après du PMU, pour moi, j'en suis absolument convaincu, sera ce qu'on a essayé de faire juste avant la crise, c'est-à-dire de revenir sur notre ADN. Le pari hippique, les courses hippiques qui sont un produit magnifique, le pari hippique qui est un produit de passionnés et de surtout pas recommencer, je dirais, aller dans tous les sens. D'abord, on a des coûts qu'il faut absolument gérer du mieux possible. Hein. Donc, on va revenir par une stratégie qui était celle qui était à l'œuvre il y a encore quelques mois et qui fonctionnait bien parce qu'on avait des résultats en pleine
Ok,
croissance
donc.
depuis 1 an et notamment ces 6 derniers mois. On va revenir à ce qu'on a appelé le recentrage. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on fera.
Le recentrage, voilà, pas de diversification. Merci beaucoup Cyril Linette d'avoir été avec
Merci
nous,
à vous.
directeur général du PMU et donc avec les courses hippiques qui doivent normalement reprendre le 11 mai ainsi que les bars PMU. Merci d'avoir été avec nous Cyril Linette.
Merci.
Dans un instant, on part à Bercy où nous attend celui qui gère toutes les participations de l'État, Martin Vial, commissaire aux participations de l'État. C'est lui notamment qui regarde ce qui se passe du côté d'Air France, Renault, Airbus, voire la SNCF. On voit ça dans un instant. Surtout, restez avec nous. Une page de pub, on se retrouve juste après.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Il est au cœur du dispositif autour des entreprises françaises. Martin Vial, bonjour. Merci d'être avec nous en direct de Bercy. Vous êtes commissaire aux participations de l'État. Votre voix se fait rare. Donc, j'espère que vous allez nous dire beaucoup, nous éclairer un peu sur ce qui se passe au niveau des participations de l'État. Juste peut-être d'abord une question, Martin Vial. Est-ce qu'il y a un risque, un vrai risque, on voit qu'on a été alerté par la DGSI, etc. Est-ce qu'il y a un vrai risque d'OPA sur les fleurons français?
Dans cette période d'hypercrise, il y a un risque, en effet, que des prédateurs profitent de la volatilité des marchés pour mettre la main sur des entreprises, pas seulement françaises, mais aussi européennes. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre les mesures nécessaires pour protéger en tout cas les plus grands fleurons français, et Bruno Le Maire a annoncé la semaine dernière notamment le renforcement du contrôle des investissements étrangers en France.
Est-ce que des nationalisations vous paraissent, là aussi Bruno Le Maire a dit que s'il fallait, il faudrait le faire, mais comme c'est vous qui gérez évidemment sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, est-ce que vous réfléchissez, je ne vous demande pas de nom hein, bien sûr, mais vous réfléchissez à des nationalisations aujourd'hui?
Il n'y a pas de tabou, comme l'a dit Bruno Le Maire, en effet. Notre priorité, à très court terme, c'est d'assurer la liquidité des grandes entreprises qui sont rendues vulnérables par la crise du Covid. Et puis viendra un deuxième temps, qui est le renforcement des fonds propres, parce que cette crise génère des pertes, et parfois des pertes irrattrapables, et il sera nécessaire alors de reconstituer des fonds propres et d'augmenter le capital de ces entreprises. Dans ce cadre, nous verrons quelle sera la place de l'État et des interventions de l'État dans les entreprises, que ce soit d'ailleurs dans des entreprises à participation publique ou des entreprises totalement privées.
Oui, c'est un point important. On va lister un peu les entreprises ensuite, Martin Vial, si vous voulez bien. Mais là, c'est important d'avoir le cadre. Sur le plan de relance, on sait de soutien de 110 milliards, il y a 20 milliards qui pour venir en aide des entreprises, et notamment des entreprises du CAC 40 ou de grosses entreprises. Combien ont été engagés? On sait qu'il y a 7 milliards sur Air France, il y a 5 milliards sur Renault. Combien sont déjà engagés?
Sur ces 20 milliards, en réalité, à l'heure où l'on parle, il n'y a pas eu d'engagement. D'accord. Puisque le soutien financier pour Air France est en cours de finalisation. Mais sur ces 7 milliards, il y a 4 milliards qui sont 4 milliards mobilisés auprès des banques, dans le cadre d'un prêt garanti par les banques, et il y aura 3 milliards de prêts d'actionnaires. Et donc, effectivement, la PE, à travers sa caisse, son compte d'affectation spéciale, va produire ces 3 milliards sur cette enveloppe de 20 milliards. S'agissant du prêt garanti par l'État pour Renault, les 5 milliards qui sont également en cours de finalisation, il s'agit d'un prêt qui va être financé par les banques et non pas par l'État.
D'accord, c'est un point important. Donc vous avez encore sous le coude, si je puis me permettre, vous avez encore beaucoup de milliards pour aider les entreprises qui en ont besoin et dont on va parler dans un instant.
Oui, parce que nous avons besoin de ces munitions, en quelque sorte. Nous intervenons en deuxième vague. La première vague, ça a été le plan formidable, au sens étymologique du terme, extraordinaire, des 300 milliards de prêts garantis par l'État, décidés par le ministre de l'Économie, avec l'accord du Premier ministre et du Président de la République, et qui profite aujourd'hui à plus de 400 000 entreprises, selon les derniers relevés faits la semaine dernière, pour assurer la liquidité des entreprises françaises. Nous allons intervenir dans une deuxième vague pour assurer la solvabilité des grandes entreprises, c'est-à-dire s'assurer que sur le moyen et le long terme, ces entreprises disposeront suffisamment de fonds propres pour pouvoir reprendre et développer leurs activités dans le monde économique d'après cette hypercrise.
Il y a combien d'entreprises, parce qu'on connaît les grands cas dont on va parler, les cas particuliers, et je les ai cités au début de cet entretien, il y a combien d'entreprises qui vous ont, vous, sollicité APE?
Pour l'instant, très peu. Évidemment, je ne vais pas vous donner les noms, puisque ce sont des entreprises, pour certaines, qui sont cotées. Nous avons identifié une vingtaine d'entreprises, nous parlons de très grandes entreprises, vulnérables, rendues vulnérables par cette crise, et pour lesquelles il y aura sans doute besoin de renforcement de fonds propres.
D'accord, ok, donc ça c'est un point important qui ne va pas intervenir tout de suite, parce que comme vous venez de le dire, aujourd'hui ce qui est important c'est la liquidité, la solvabilité de l'entreprise. Air France KLM, vous l'avez dit, il y a un prêt de 7 milliards qui est en train d'être consenti, Bruxelles a dit oui. La question qui peut se poser c'est, est-ce qu'il y a des contreparties, notamment des contreparties vertes entre guillemets, mais est-ce que vous demandez des contreparties ?
Il y a des engagements qui sont liés à ce prêt tout à fait extraordinaire d'un montant sans précédent de 7 milliards d'euros. Et comme l'a indiqué le ministre hier, ces engagements porteront à la fois sur des engagements économiques. Il s'agit de faire en sorte que l'entreprise présente un plan de rebond pour assurer sa soutenabilité, sa compétitivité, s'aligner sur les meilleurs standards internationaux et des engagements environnementaux. Parce que on ne peut pas envisager le monde de demain sans qu'il soit inscrit dans ce défi environnemental qui est la lutte contre les émissions de CO2. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois, Air France KLM, et en particulier sa filiale Air France, vont prendre des engagements pour réduire massivement les émissions de CO2 par passager, mais aussi en volume, d'ici 4-5 ans, donnant la préférence au train pour des courtes distances.
Oui.
Je voudrais insister là-dessus parce que je pense que c'est la première fois qu'une compagnie aérienne dit publiquement, formellement, nous allons inciter les voyageurs à prendre le train plutôt que l'avion sur les courtes distances.
Oui, qu'elle se saborde en l'occurrence.
Non, ce n'est pas se saborder, c'est...
Martin Vial, juste parce que comme il nous reste peu de temps là-dessus, est-ce qu'il y aura forcément une question de renforcer le capital ? On sait que les discussions sont très difficiles, voire parfois houleuses avec l'État néerlandais, avec le KLM. Est-ce qu'il faudra quand même à un moment se poser la question de renflouer en capital Air France, KLM ?
Nous avons besoin d'un peu plus de visibilité sur la reprise de l'activité et sur ce que sera l'activité de transport aérien dans les prochaines années, dans le cadre nouveau qui est la vie économique avec le virus. Et par conséquent, une fois qu'on aura cette visibilité, dans le courant de l'été, l'entreprise va présenter un plan de rebond, comme je viens de l'évoquer, et c'est sur cette base que nous allons travailler sur le renforcement des fonds propres, si c'est nécessaire, et évidemment le faire avec les autres actionnaires, dont l'État néerlandais, avec lequel nous sommes en contact permanent dans cette période de crise.
Oui, on sait que c'est pas toujours simple, et là c'est important. Alors, on va rester dans l'aérien un instant, parce que je recevais Guillaume Faury, le patron d'Airbus, donc la semaine dernière. Il expliquait, mais moi, j'ai pas besoin de l'État. Et puis, on entendait Bruno Le Maire qui dit, on est prêt à aider massivement Airbus. Alors, qu'en pense le patron de la PAE, en l'occurrence vous, Martin Vial?
Airbus a pris des décisions très rapidement au début de la crise de sécuriser sa trésorerie avec la levée de plus de 15 milliards d'euros de prêts bancaires. Et donc Airbus disposait en mars d'une trésorerie de 30 milliards d'euros pour faire face à cette crise. Cela étant, le secteur aéronautique est complètement choqué par cette crise.
Ouais, c'est clair.
Parce que les entreprises de compagnies aériennes sont au sol et que les commandes d'avions sont en train de disparaître. Donc Airbus, comme les autres constructeurs aéronautiques, mais aussi tous ceux qui contribuent à la filière aéronautique, vont avoir à gérer une situation extrêmement critique. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, le ministre a dit « Nous soutiendrons autant que possible cette filière aéronautique, parce que ce sont des centaines de milliers d'emplois en France, en Europe, et que, bien évidemment, pour l'industrie et pour la souveraineté économique française et européenne, c'est vital.
C'est à point de combien, à votre avis, pour l'aéronautique, pour la filière aéronautique ?
Je ne vais pas donner de chiffres aujourd'hui, mais il s'agit d'utiliser des leviers de... Non, mais il s'agit d'utiliser des leviers de nature différente, à la fois d'aide au soutien industriel, à l'innovation, à l'exportation. Bref, c'est toute une panoplie d'instruments que l'État mettra en œuvre de façon renforcée dans le cadre de cette crise.
Il y a un plan de filière donc sur l'aéronautique, hein, c'est clair, parce qu'il y a aussi Safran et Thales derrière qui souffrent énormément, bien sûr. Il y a Renault, le secteur automobile, là aussi, il faut un plan de relance, un plan sur la filière. Sur Renault, là, c'est un peu comme Air France, mais la situation est beaucoup plus complexe. Vous êtes même venu ici nous parler de la situation de Renault, la situation avec Nissan-Renault. Là, il y a un prêt de 5 milliards donc qui a été autorisé et qui a été autorisé avec le feu vert de la Commission européenne. Ce prêt, il est finalisé quand ? Parce que depuis le temps qu'on en parle, on aimerait bien avoir une date.
On en parle depuis relativement peu de temps, quand même.
Quand même.
Alors, c'est la,
on
c'est
suit
la somme
sur BFM Business, vous
qui
savez
impressionne,
bien.
Évidemment. Mais, bien sûr, vous anticipez toujours. Mais c'est une finalisation qui devrait intervenir dans les prochains jours. En effet, la Commission a donné son accord. Et donc, il s'agit d'une négociation entre l'entreprise et les établissements prêteurs. Il y a plusieurs établissements prêteurs. Et donc, ça donne toujours lieu à une négociation finale qui est en cours.
Oui. Ce prêt, de donc 3 milliards hein, par l'État, il va servir à quoi? Qu'est-ce que vous avez demandé?
Vous parlez du PGE pour Renault,
oui,
pour
Renault.
Ou pour Air France?
Pour Renault, je suis sur Renault.
Pour Renault, c'est 5 milliards, donc,
oui, 5 milliards, pardon.
Voilà, qui est un prêt garanti par l'État. Voilà. Non, le bien évidemment, il n'y aura pas de versement de dividendes. Les dirigeants ont fait des efforts pour baisser leur rémunération dans cette période de crise et sur toute l'année 2020 d'ailleurs. Et puis, il y aura bien sûr la réitération d'engagement et le renforcement d'engagement de Renault en matière environnementale, notamment parce que Renault est un leader pour les véhicules électriques. Il a été avec le modèle Zoé. Et nous souhaitons en effet que l'entreprise renforce ses engagements sur son positionnement sur le véhicule électrique et de façon générale sur le respect des normes environnementales.
D'accord. Martin Vialeschiara, pardon, il nous reste.
Ce que font d'autres constructeurs européens.
Il nous reste deux minutes et j'ai encore trois questions importantes. Donc c'est juste, il y aura une question, la question du capital et du rééquilibrage de l'alliance Renault-Nissan sera sur la table à l'automne.
Cette question n'est pas à l'ordre du jour.
Elle est.
Renault est une entreprise solide, mais elle prépare cette après-crise. Nissan est une très grosse entreprise, mais elle est également choquée par cette crise. Et pour l'instant, avec Mitsubishi, ces trois entreprises, dans le cadre de l'alliance, n'ont qu'une idée. C'est de restaurer la compétitivité et la capacité de faire face dans des conditions compétitives à la demande nouvelle du marché.
Sur la SNCF, on a vu que Jean-Pierre Farandou a dit ben moi, cette crise, elle nous a coûté 2 milliards, nous, on a besoin d'argent. Dans un premier temps, il y a le secrétaire d'État en charge des transports, Djebari, qui dit non, c'est pas la peine, c'est pas tout de suite. Et puis on a vu Elisabeth Borne et Bruno Le Maire dire ben, si on a besoin, on va aider massivement, là encore, la SNCF. Est-ce que la SNCF, donc qui est un EPIC, hein, qui n'est pas une entreprise cotée, bien évidemment, est-ce qu'elle a besoin, est-ce que vous allez renflouer la SNCF?
Nous sommes en train de revoir les trajectoires financières de la SNCF liées à cette crise. Je rappelle quand même que la SNCF a été massivement aidée par l'État dans le cadre de la réforme ferroviaire de 2018. L'entreprise a changé de statut depuis le 1er janvier, mais l'entreprise a été dotée de 25 milliards d'euros pour réduire sa dette. Et il y a 10 milliards d'euros encore qui vont venir au 1er janvier 2022. Donc c'est 35 milliards d'euros de réduction de dette qui est accordée par l'État. Et donc c'est autant de fonds propres, puisque ça revient à rétablir la situation nette de l'entreprise. Et nous allons, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, examiner avec la SNCF l'impact massif, en effet, de cette crise et les mesures qu'il faut prendre pour permettre à la SNCF de redevenir autonome sur le plan financier.
Merci beaucoup, Martin Vial. Justement, qu'a gagné pour l'État du non-versement de dividendes, c'est combien, notamment pour l'APE?
C'est environ 2 milliards cette année.
Oui, 2 milliards pour l'État. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions, Martin Vial, donc le commissaire en charge des participations de l'État. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain. Demain, on parlera de Lagardère demain matin. Bonne journée.